כך זה מיישם עליכם תחיו לאורך חיימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vaera. Donc nous avons vu qu'Akadosh Baruch Hu informe Moshe que la délivrance est déclenchée. Et immédiatement il dit Vegam akimotil biritit, Vegam anishamat, il a chen est mort. C'est pour cela que tu dois dire aux enfants d'Israël, la chen est mort, l'Ibn Israël. Ani Hachem. Donc répète-leur que je suis Hachem. Donc Hachem, ça veut dire dans la pratique. Hachem, c'est le nom de des plaies. C'est le nom qui apparaît lors des plaies. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ve'otseti etrem mitahat sivlot mitzrayim. Je vous sortirai des souffrances de l'Égypte, du joug de l'Égypte. Ve'itzalti etrem me'avodatam. Je vous sauverai de leur servitude. Je vous délivrerai par un bras étendu et avec des prodiges énormes. Et après, dans le passage suivant, il dit, mais la quartier est très mille et un, va est-il à Chemerim? Mais je vous prendrai pour peuple et je serai votre Dieu. Vidatem. Et vous saurez, alors, vous saurez, qu'Ani Hachem Elohechem, que je suis l'éternel, votre Dieu, Amotzi est très mitahat sivlot mitzrayim, qui vous a sauvé, qui vous a sorti de l'oppression d'Égypte. Donc il est dit ici quatre verbes. Ces quatre verbes-là, ve itzalti, ve gaalti, ve lakarti, ce sont les quatre étapes de la Géoula. Arba leshonot shel Géoula. Les quatre langages, les quatre verbes qui marquent les étapes de la délivrance. Alors d'un point de vue pratique, Ve'itzalti, c'est l'arrêt. Ve'otzeti etrem, je vous sortirai du joug d'Égypte. C'est à Rosh Hashanah, l'année en question. Officiellement, la servitude avait cessé. Donc les ministres, ils sont esclaves, mais ils sont esclaves au chômage. Et officiel, c'est pas qu'ils ne vont pas travailler. Les Égyptiens n'ont plus les moyens de les faire travailler. Donc ils sont au chômage. C'est l'arrêt de la servitude. Après, il y a marqué « Ve'itzalti etrem », je vous sauverai de leur servitude. C'est la sortie elle-même d'Égypte. « Ve'galti », je vous délivrerai avec un bras fort, un bras étendu. C'est la traversée de la mer. Donc ça, c'est les trois étapes les trois premières étapes de la délivrance. La délivrance est conclue à la traversée de la mer. Donc il y a un processus de délivrance, de libération. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les Bnei Israël, ils doivent retrouver un statut, ils doivent s'éduquer, s'entraîner à être des hommes libres. Alors, nous avons vu que la servitude n'est pas uniquement une servitude physique, c'est aussi et surtout une servitude morale. À tel point que les individus étaient conscients et de leur statut. Et si on les avait interrogés sur leur état, ils auraient clairement dit que eux, leurs enfants, jusqu'à la fin des temps, ils sont des esclaves au service de l'Égypte. Ils n'ont aucune autre espoir, aucune autre espérance de sortir de ce statut. Donc ça veut dire c'est véritablement un lavage de cerveau qui a été fait. Et quand bien même ils avaient l'espoir ou l'espérance d'une libération, c'est quelque chose de très lointain et on pouvait dire ça peut arriver, mais on ne sait pas comment ça peut arriver. Et on n'est pas certain que ça arrive. Et tant qu'il y a un espoir, tant que cet espoir était vivace dans l'esprit des individus, alors la servitude pouvait continuer. Mais s'il s'efface, oui, si cet espoir-là s'efface, si on l'a effacé de nous, on n'y croit plus, alors c'est ce que Chachamim disent, ils ont atteint le 49e degré d'impureté. Ça veut dire qu'on arrive, s'ils étaient restés encore un peu, alors cet espoir de sortir de te libérer, d'aller recevoir la Torah, de rentrer en Israël et de servir Dieu, aurait été totalement... c'est un point de non-retour. Le point de rupture aurait été atteint. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu accélère la délivrance. Donc les trois étapes. Les trois étapes par rapport au Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a un lien dans cela par le fait que Rosh Hashanah et Pessah, c'est correspond la naissance des uns, la naissance des autres, le lien qu'il y a entre la promesse des Avot et le processus de délivrance. Et c'est à cela que fait référence aussi quand il est dit, quand Hachem promet à Yaakov, je te sortirai. Il est marqué ici, là-bas, il lui promet de le sortir en répétition. Il est marqué deux fois. Je te sortirai. Donc, ça signifie que la sortie, c'est le processus de sortie. La sortie ne se fait pas d'un coup. La sortie se fait de manière progressive. De sorte que les blés d'Israël, dès les premières plaies, les Égyptiens n'ont pas les moyens d'obliger les blés d'Israël de travailler. Certains continuent à travailler, certains n'ont arrêté, mais c'était pas officiel. Arrivé Rosh Hashanah, donc, on prend conscience que tout est, bien qu'ils étaient esclaves, ils voient que les dominants, les maîtres n'ont plus tellement le pouvoir sur eux. Arrive Rosh Hashanah, c'est une nouvelle étape qui est franchie, c'est que là, c'est officiel. Vous êtes esclave, mais vous ne travaillez plus. Quand il sort d'Égypte, donc là, véritablement, les Égyptiens les chassent, comme il est dit à la fin de la paracha précédente, que Pharaon va les chasser, va les renvoyer. Donc quand un maître renvoie son esclave, il le libère. Toutefois, ils sortent. Mais au fond d'eux-mêmes, est-ce qu'ils se considèrent encore, ou ils se considèrent à présent hommes libres, totalement libres, ou bien ils ont encore une crainte ou une attache avec leur maître. Alors quand est-ce que ça s'est brisé complètement, que véritablement les Bnei Israël, ils se considèrent totalement délivrés de l'esprit de l'esclavage, ils sont un peuple libre? C'est quand ils voient, après la traversée de la mer, que les Égyptiens, ils ont disparu. Chacun a reconnu, il est dit, « Voyez Israël et Misraïm met al Sfataya ». Ils ont vu les Égyptiens morts sur la berge, sur le bord de l'eau. Ça signifie que chacun a reconnu son tortionnaire, chacun a reconnu son maître. Il a vu mort, donc ils se sont sentis, ils sont là, véritablement, ils sont libres. Parce que, même s'il reste des Égyptiens en Égypte, la mer les sépare, donc ils peuvent pas les atteindre. Donc ils ont pris conscience véritablement là de leur délivrance totale. Ces trois étapes sont en fonction de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la quatrième, c'est un autre pasouk. Mais la quatrième, l'Ileham, je vous prendrai pour peuple. C'est-à-dire qu'il va leur donner la Torah. Et cette dimension-là, c'est la dimension de Moshe. La dimension de transmission de la Torah, le dévoilement, Torah révélée et entendue, la Emouna parfaite et totale, comme dit Maïmonide, Rambam dit que les Bnei Israël, ils ont cru, ils n'ont pas cru à Moshe parce qu'il leur a fait des prodiges. Ils ont cru en Moshe parce que quand il les a amenés sur le Har Sinaï, ils ont entendu, ils ont vu, comme il est dit, je te parlerai afin que eux aussi ils entendent que c'est moi qui te parle. Donc ils ont pris conscience, ils ont entendu, ils se sont convaincus, c'était une réalité. Ils ont entendu Akadosh Baruch Hu parler à Moshe. Donc là, la Emouna, elle a été totale, bien ancrée. L'Emouna est alors une réalité absolue incontestable. C'est cette dernière dimension qui indique la grandeur de Moshe. Donc il y a ici une association entre le mérite des anciens, des pères, Avot, Akedoshim, Avraham, Isaac et Yaakov, et la ma'alat de Moshe. Comme si que c'est la grandeur, la dimension de Moshe qui va permettre d'épanouir la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. La dimension des Avot prend une dimension, s'épanouit une plénitude totale grâce au personnage de Moshe qui est, lui, à un niveau du Shem Havaya. C'est ça, Moshe, il est au niveau du Shem Havaya Baruch Hu. Alors que les Avot, nous avons dit, ils sont au niveau de El Shaddai. Et c'est à cela qu'il est dit, et là il est dit, Vaidaber Moshe Ken El Bene Israël. Donc il a reporté, donc tout ça c'est le discours que HaKadosh Baruch Hu fait à Moshe, et Moshe à présent, il va le répéter. Il répète ce discours au Bene Israël, Vaidaber Moshe Ken El Bene Israël. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, Vloshamo Al Moshe Mi Kotser Roach Ome Avoda Kasha. Et malgré tout, les Bene Israël n'ont pas entendu la parole de Moshe, du fait qu'ils avaient le souffle court, mais quand ça roar, on met avoda kasha, et du fait de l'oppression gravissime qu'ils étaient en train de subir. Donc ils étaient dans une situation où ils pouvaient pas entendre. Alors c'est là, le Zohar dit que ça veut dire ils ont pas entendu, ils ont pas pris le temps d'entendre, ils sont pas posés, ils n'avaient pas de respiration, ils n'avaient pas le temps d'entendre. Donc ils sont dans une situation de ne pas pouvoir entendre, d'accepter ce qui est dit, puisqu'ils sont en train de vivre l'opposé. Et c'est à ce sujet que le Zohar dit que la parole est en exil. Donc quand Moshe parle, c'est juste là, il est dit juste après, Vaidaber Hashem, Hashem dit à Moshe, Bo el paro. Bon, d'abord, il parle au Mishraïm. Vishalah al ben Israël Marso. Il dit, va répéter cela à Pharaon, qu'il renvoie le peuple. Alors, Moshe s'étonne. Il dit, va d'abord, Moshe, il finit Hachem, les morts. Il parle là en ces termes. Hem le ben Israël, au Shem Ha'elai. Comment, si les ben Israël ne m'ont pas entendu, vir Ishmael ni Paro, comment Pharaon pourrait-il m'entendre? Va anir aral sefataim. Et moi, j'ai la bouche fermée. Ara, c'est comme si qu'il y a une peau qui vient se placer devant la bouche devant les lèvres de Moshe, et il ne peut exprimer ses paroles. Et Pharaon, donc, il peut pas entendre parce que moi je peux pas parler. Parce que moi je suis empêché de parler. Ma bouche est fermée, mes lèvres sont collées par une peau qui les enferme. A priori, ça n'a pas de lien. A priori, on pourrait se demander si les Bnei Israël, ils n'ont pas entendu les paroles, ou ils n'ont pas accepté, ou ils n'ont pas été convaincus, et ils n'ont pas accepté les paroles d'encouragement et de compassion. Ils n'ont pas voulu espérer quelque chose qui peut-être ne se produira pas. Ils en ont fait l'expérience déjà. Donc il y a une raison à ça. Mais alors quel rapport avec Pharaon? Peut-être que Pharaon pourrait. Alors le Zohar pose cette question. Elle dit que la parole, elle est enfermée. La parole est bégalout. Adibour ve'apé bégalout. Et nous avons déjà expliqué ce concept du galout de la parole. C'est que les gens sont postés, sont prostrés, ou ils sont dans des positions, des postures qu'ils n'entendent pas. Ils sont dans une situation qui paraît immuable. Quelqu'un il est dans des attitudes, dans des pratiques, dans des habitudes qui sont telles que il lui semble que c'est, il ne conçoit pas qu'il puisse en sortir et changer de comportement, d'attitude. Et en fait, ce sont les hommes qui aggravent leur situation en pensant qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, que la situation est telle que comment pourrais-je m'en sortir? Donc ils perdent l'espoir. C'est ça le concept du galout. Alors Moshe dit comment c'est possible, de la même manière que les Bnei Israël, ils sont du fait de l'oppression qui s'est aggravée, ils n'ont pas de souffle, ils n'ont pas le temps d'entendre, ils n'ont pas de raison, de possibilité intellectuelle d'entendre et d'espérer. Pourquoi ça influe sur Pharaon? Parce que ça va de pair. Pharaon, il se renforce dans son positionnement, dans son attitude. Ça va de pair. Si les uns ne m'entendent pas, l'autre aussi ne peut pas m'entendre. Parce que le fait que Pharaon arrive à dominer, à maîtriser, à servir de plus en plus gravement et durement les ministres d'Israël, ça signifie que son pouvoir, il se convainc que son pouvoir va de plus en plus, il est arrogant, sûr de lui, et il se sent fort. Il se sent au plus fort de sa démarche. Il est au plus haut. À l'apogée de son pouvoir. Alors comment pourrait-il entendre ? Voilà que tu dis des choses et tu n'arrives pas. Vas-y, ça change pas. C'est moi qui commande. C'est moi qui suis en haut. Tu me demandes quelque chose que de ma position, du fait du choix, des choix que j'ai fait, je suis à l'opposé de ce que tu affirmes et ce que tu me demandes. Donc c'est certain que Pharaon ne peut pas l'entendre. Et les deux vont de pair. Alors qu'il était peut-être plus plausible que les bénis d'Israël puissent espérer un peu. Alors, si les bénis d'Israël n'espèrent plus, ne m'entendent plus, comment ça peut influer sur l'entente de Pharaon ? Comment Pharaon pourrait-il m'entendre ? Donc on voit de là que la conviction, si on a la conviction, on peut s'en sortir. Mais si on n'a pas de conviction, alors on s'enfonce dans le désespoir. Alors celui qui est dominant, alors il se renforce lui-même dans son oppression. Après ça, il est dit que, quand je vous redis à Moshe, si Pharaon vous demande un signe, quelle preuve j'ai que... C'est-à-dire, il a dit précédemment, le Hadati est taché, mais comme Israël le chaleur. La semaine dernière, nous avons vu, ils sont partis voir Pharaon, et ils lui ont dit ce qu'ils lui ont dit, et Pharaon n'a pas accepté. Il ne connaît pas Hachem. Alors il dit, s'il demande, mais je peux te faire un signe, je peux te le montrer, je peux montrer sa puissance. Alors il a dit, si Pharaon te demande, alors tu te présenteras devant lui, et tu jetteras, alors tu feras le signe du bâton. Alors, c'est ce qui a marqué ici. Qui d'aber alechem paro les morts, tenu lachem mofet, ve'amarta el aaron, kar et matecha, vacher lifne paro, et il est tenu. Dit à Aaron de jeter son bâton, et il se transformera en serpent devant lui. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Va'ikra gam paro lachachamim, lamchachifim, ve'yasu gam em, hartumim isrem belatem ken. Donc, eux aussi, ils ont fait ça. Et le Midrash dit que même les enfants, il amenait les femmes, les enfants, toute la population, il savait faire des bâtons transformés en serpents. Donc il s'est moqué d'eux, il les a tournés en dérision. Vayashtichu ish mateu. Chaque personne a jeté son bâton. Et ils sont tous devenus, donc il y avait des dizaines de bâtons qui sont devenus, qui apparaissaient comme étant des serpents. Et après là, il est dit, vayivla mate aaron et matotam. Le bâton de Aaron a avalé leur bâton. Et malgré tout, et ainsi que Hachem l'avait dit précédemment, il dit, moi je renforcerai le cœur de Pharaon, j'alourdirai son cœur. Et là, il n'a pas écouté. Alors, quelle est cette histoire de... Que contient le prodige, le signe du bâton qui se transforme en serpent? Et pourquoi ça aurait été suffisant pour Pharaon? Normalement, est-ce que c'est normalement Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose pour tromper? Est-ce que Akadosh Baruch Hu ba betrunia imbirota? Est-ce que c'est un vrai signe et que c'est normalement il aurait dû prendre conscience et libérer, accepter? Ou bien c'est un piège? On lui fait croire que lui aussi, que c'est juste un coup de magie. Et c'est le Dieu qui fait le bâton, qui transforme le bâton en serpent. Il n'est pas plus fort que le Dieu égyptien et la sorcellerie égyptienne qui transforme aussi les bâtons en serpents. Le bâton a mangé les serpents. Et les bâtons a mangé les bâtons. Bon, avaler les bâtons, c'est pas grave. Parce que bon, alors peut-être que tu es un peu plus fort que nous. mais ça ne prouve rien. Ou bien c'est un vrai signe. Et Pharaon, ne trompe pas Pharaon. Alors c'est ça l'idée. Alors qu'est-ce que contient le bâton? Est-ce que Pharaon aurait pu voir le prodige du bâton de manière objective? Il aurait pu voir, certainement. C'est un vrai signe. Et c'est le choix de Pharaon de ne pas l'accepter. Donc c'est son orgueil. Parce qu'il se sent fort. Il ne peut pas être convaincu totalement par le prodige du bâton qui se transforme en serpent. Pourquoi? Parce que il ne conçoit pas, il ne voit pas la différence qu'il y a entre le serpent produit par le bâton de Aaron et les autres bâtons. Alors, les Chachamim disent que le bâton de Aaron s'est véritablement transformé en un être vivant, un serpent vivant, un vrai serpent. Alors que les bâtons des Égyptiens sont restés des bâtons, mais c'était seulement de l'illusion. C'est la sorcellerie, c'est on te fait croire, ça prend la forme, mais c'est, au fond, il est resté bâton. Ça l'idée. Est-ce que Pharaon pouvait distinguer les deux? Est-ce qu'il pouvait avoir suffisamment d'objectivité et de conscience pour saisir la différence? Certainement, mais il n'accepte pas de le faire. Parce qu'il est, il est, Pharaon n'est pas seul. Pharaon n'est pas seul lors de cet événement-là. Il y a un monde fou. Il y a toute sa cour. C'est ça, c'est les chachamim de Pharaon, les femmes, il y a la cour, il y a beaucoup de monde. Donc c'est pas du fait de, c'est par rapport au regard des autres qu'il ne peut pas accepter. S'il avait été seul, alors peut-être que Pharaon aurait accepté, aurait été convaincu et aurait reconnu. Mais c'est le fait du regard, ça c'est la nature humaine. Souvent c'est par rapport au regard des autres qu'on agit. On n'agit pas, on est gêné du regard des autres. Qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, qu'on fasse les mitzvot, on se sent toujours obligé par rapport au regard des autres. C'est pour ça que la relation qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu, elle doit être une relation vraie, c'est-à-dire considérée, quand on a quelque chose à dire à Hachem, il faut le dire dans l'intimité, sans tenir compte, ou bien se retirer, ou bien ne pas tenir compte du regard des autres et de leurs remarques. Et c'est ça l'erreur de Pharaon. Pharaon, certes, il est un roi puissant, mais il ne réagit pas en homme, en individu. Il réagit en tant que souverain vis-à-vis du roi. Il ne peut pas accepter de reconnaître qu'il n'est rien devant Dieu. Et c'est très difficile, à cause du regard de ses sujets. Alors ça, c'est ce qui... Alors ici, il est marqué... Que le serpent de Aaron est redevenu bâton, et c'est en tant que bâton qu'il avale les bâtons. Et la Gemara elle dit Nes betornes, un double miracle. Parce que s'il avait été un serpent, je comprends qu'un serpent avale, mais qu'un bâton avale, c'est difficile. Alors là, sur ça, la question elle se pose. Il dit que le mot avaler, il peut pas être un objet, une pierre ne peut pas avaler une autre pierre, ou une pierre ne peut pas avaler un morceau de bois. Le mot avaler est qualifie un être vivant. Et le bâton n'est pas vivant. Alors les Mefarshim s'étonnent sur l'emploi du terme vaivla. Et pourquoi donc serait-il redevenu bâton? Et pourquoi avale-t-il les bâtons? Alors il aurait dû avaler des serpents. Alors si... Certes, lui redevient un bâton et il les avale aux autres en tant que bâton. Mais il aurait été un miracle encore plus prodigieux s'il avait avalé des serpents. Alors l'idée elle est la suivante. En fait, le bâton de Aaron, ce bâton là, il est un bâton, il n'est pas un serpent. Mais pendant un moment, il était un serpent. C'est comme nous l'avons vu avec Moshe. Donc c'est la capacité d'une miracle prodigieux de transformer, c'est ça la création, transformer quelque chose d'inerte en vivant. Akadosh-Baruch Hu lui donne la vie. C'est comme si il lui a insufflé un souffle à ce bâton. Et tout d'un coup, le bâton est devenu un être vivant. Ça, c'est ça l'idée du Shem Havaya Baruch Hu. C'est l'idée du Shem Havaya. C'est au-delà de la nature. Maintenant, quand il avale en tant que bâton, parce qu'en vérité, c'est un bâton. Alors pourquoi le terme avaler est employé? Parce que c'est le Shem Havaya qui agit. Shem Havaya, il peut tout. Il n'y a pas bâton. C'est comme la réflexion qu'a fait Rabbi Hana ben Dosa quand il a dit à sa femme, elle avait Bito, c'est sa femme ou sa fille qui a allumé. Elle s'est trompée, elle a mis dans la lampe, elle a mis du vinaigre au lieu de l'huile. Il y avait sûrement un peu d'huile, mais elle a rempli avec du vinaigre. Donc elle s'est trompée. Donc elle dit, ça va s'éteindre, ce bâton sera dans l'obscurité. Alors elle a dit, celui qui a décrété que l'huile peut éclairer, il décrétera aussi au vinaigre. Donc c'est comme si que l'eau, c'est du vinaigre. Le vinaigre et l'huile, c'est la même chose. Donc le bâton et le serpent, Beshem Avaya Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Alors quand il les avale en tant que serpent. Parce qu'encore une fois, les Égyptiens n'ont pas transformé les bâtons en serpents. On les voit serpents. C'est une illusion. Alors quand les gens observent, ils observent quoi? Ils observent un bâton qui avale des serpents. Mais dans les faits, ces serpents-là, ils sont que des bâtons puisqu'ils sont pas des êtres vivants. C'est pour ça que le pasouk dit « Vaivla mate Aaron et matota » Certes, il a avalé les bâtons, mais ceux qui assistent, ils assistent à un bâton qui avale des serpents. Donc c'est réellement comme ça que ça se passe. Et malgré tout, comme nous l'avons dit, Pharaon ne peut pas accepter. « Vaihéza kelef paro velo shama alem kacher diber Hashem » Donc le cœur de Pharaon s'est endurci et il peut pas entendre, il peut pas accepter, il peut pas se soumettre. En effet, qu'est-ce que se serait-il passé s'il s'était soumis? Alors on aurait manqué les 10 plaies. Et sans les 10 plaies, la Emouna elle est imparfaite. D'une part pour les Égyptiens et d'autre part pour les Bnei Israël. Encore une fois, ce que nous devons comprendre, c'est que les 10 plaies de la sortie d'Égypte sont la reproduction des 10 paroles créatives qui ont été dites au début du récit de Bereshit, qui ont créé le monde. Mais quand la Mishnah dit, ben, Asara Mamarod Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles. Et ces paroles, mais nous n'avons pas assisté. Donc là-bas, il y a marqué, Vaidaber Elohim, voyons Mer Elohim. C'est l'artisan, celui qui crée, c'est le Shem Elohim. Et ici, c'est Shem Havaya. Donc, si Pharaon, ici, il avait accepté, il s'était soumis. Alors, ces 10 paroles-là, les 10 plaies, les 10 paroles de la création n'auraient pas été reproduites. Personne n'a assisté à la création du monde. On ne sait pas comment ça s'est passé, si ce n'est que la Torah nous raconte. Ici, il y a des individus qui assistent à cette reconduction des 10 paroles de la création sur un niveau beaucoup plus puissant, le Shem Havaya qui apparaît. C'est pour ça que, et à la sortie d'Égypte, dans les 10 commandements, il est dit, Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors pourquoi il dit pas qui crée le ciel et la terre, qui crée le monde? A priori, ce serait plus puissant. La puissance de Dieu, elle s'exprime beaucoup, avec plus de puissance quand on dit j'ai créé le monde, mais j'ai sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Eh bien c'est ça, c'est que la sortie d'Égypte, elle est la reconduction de la création du monde. Les Makot sont la reconduction des... Mais là, nous avons assisté, nous avons vu que non seulement, quand Dieu a créé Yesh Me'ayim, il a créé ex nihilo, le monde à la création, mais là, il transforme le monde, il intervient dans son monde. Et l'intervention est d'un degré, parce que nous y assistons, elle est d'un degré beaucoup plus puissant. Et c'est ça qu'il se passera à la Géoula chez les mains à la fin, c'est que les prodiges de la sortie d'Égypte se reproduiront à un niveau beaucoup plus amplifié, beaucoup plus puissant, Et c'est une ma'ala plus grande que la création. Parce que la création, elle est figée, alors que la délivrance, elle transforme ce qui est figé. Elle lui donne une nouvelle vie. Il y a rien de figé. Le bâton, c'est un serpent. Il n'y a pas de différence entre le serpent et le bâton, et le bâton et le serpent. C'est ça la puissance de la délivrance. C'est pour ça qu'il est dit, la déclaration de foi, « Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzeticha Meret Mitzrayim ». Il n'y a pas dit que j'ai créé le ciel et la terre. Parce que là, on a assisté, et c'est l'intervention divine dans ce monde, est d'une ampleur, une puissance beaucoup plus forte que la création ex nihilo. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.